c'est bon pour la santé.
Bonjour et bienvenue à C'est bon pour la santé. Ici Camille Chai, votre animatrice, en compagnie de mon co-animateur médecin, François Baruel. Bonjour François.
Bonjour Camille.
Ensemble, nous abordons différents sujets variés et très intéressants, et ce, de façon hebdomadaire. En rafale, nos intervenants aujourd'hui sont Annick Filion, qui nous a mené un vox pop sur la psychose. Catherine Bourderon, chroniqueuse, vient nous parler d'un sujet dont on ne parle pas assez souvent, d'après moi, le burn-out parental. Et Patrice Cocro nous livre un coup de gueule sur la pollution sonore. Alors, on commence cette émission en beauté avec un sujet qui est plus répandu que ce que nous pouvons le croire, hein, le trouble du langage chez l'enfant. Nous avons d'ailleurs avec nous en studio Isabelle Meilleur et elle vient nous parler du livre « Au-delà des mots, le trouble du langage chez l'enfant » paru aux éditions du CHU Sainte-Justine. En seconde partie d'émission, nous recevons Colombe Saint-Louis qui vient nous parler, elle, de son livre « Entre mes psychoses, survivre » des éditions Carte Blanche. Bienvenue à vous tous et merci de passer cette heure avec nous. Et pourquoi vous nous écoutez aujourd'hui? Parce que vous le savez très bien au fond de vous, ce qu'on vous présente, c'est bon pour la santé. Isabelle Meilleur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue en studio.
Merci.
Isabelle, vous êtes orthophoniste et avez écrit le livre « Au-delà des mots, le trouble du langage chez l'enfant » qui est paru aux éditions du CHU Sainte-Justine. Vous l'avez écrit avec vos trois complices, je dirais, je peux les appeler comme ça. Et j'ai envie de les nommer pour leur faire honneur aussi. Donc, il y a Annick Proulx, qui est travailleuse sociale. On a Tamara Bachelet, qui est neuropsychologue, et Annick Arsenault, qui est ergothérapeute.
Exact.
Et depuis plusieurs années, les quatre ensemble, vous œuvrez dans le milieu de la réadaptation auprès des jeunes qui ont un déficit du langage. Et à travers ce livre, vous offrez vos connaissances au sujet du trouble du langage et aussi des moyens d'y faire face avec les familles qui le vivent au quotidien.
Tout à fait.
J'ai envie de commencer l'entrevue en démystifiant un peu qu'est-ce que la dysphasie, le trouble du langage. Y a plein de mots qu'on emploie pour ça. De quoi on parle en fait?
En fait, ce qui est une bonne nouvelle, maintenant, il y a un consensus pour un seul mot.
Ah,
donc, depuis tout récemment, là, depuis 2017, on parle de troubles développementaux de langage. Donc, le terme dysphasie qui était utilisé dans le passé beaucoup au Québec et ailleurs. Le terme aussi troubles spécifiques de langage qui était utilisé aux États-Unis va être remplacé par le trouble développemental de langage. Donc, c'est un consensus international qui a été qui a établi que c'était le meilleur terme pour parler de cette condition-là parce que, dans le fond, c'est un trouble neurodéveloppemental. Mental. Mm-hmm. Donc, c'est un trouble qui est d'origine neurologique qu'on va voir chez les jeunes enfants. On va le voir dès les premières années. Oui. Là, dans le fond, ça peut devenir évident vers 2 ans, 3 ans. Il y a des familles qui vont plus déceler cette condition-là autour de 4 ans chez leurs enfants. Mais c'est ça. Donc, donc c'est ça. Dans le fond, on va voir chez ces jeunes-là, mm-hmm. dans le fond, des difficultés à s'exprimer, des difficultés à acquérir les premiers mots, à acquérir les premières phrases, à pouvoir se débrouiller, à comprendre et à s'exprimer. Dans le fond, c'est un peu ces deux dimensions-là qui vont être touchées principalement. Donc, chez une bonne majorité de jeunes, ça va être des difficultés à s'exprimer, donc à utiliser les mots, à utiliser les phrases, à pouvoir raconter, expliquer. Mm-hmm. Chez une certaine portion des jeunes, il va s'accompagner de difficultés au niveau de la compréhension. Donc, le sens des mots va être vraiment très ardu à acquérir. Mm-hmm. Donc, ces jeunes-là vont vivre beaucoup d'impact dans leur quotidien. Donc, pour avoir un trouble développemental de langage, c'est une des caractéristiques. Il faut avoir un trouble de langage, mais il faut avoir des impacts dans la vie de tous les jours.
Mais comment les parents, quels sont les premiers signes? Comment les parents peuvent se rendre compte que l'enfant a justement une difficulté ou un retard, surtout par exemple si c'est leur premier enfant?
Oui. Je pense que le développement du langage est de plus en plus connu. On sait, par exemple, que les premiers mots arrivent vers 12 mois, que, vers 18 mois, on est supposé d'avoir une quinzaine de mots. Même des fois, pour certains enfants, ça va aller jusqu'à une cinquantaine facilement. À 2 ans, les combinaisons de mots vont arriver. Donc, chez ces jeunes-là, les premiers mots vont être un peu plus lents. Chez certains enfants, c'est pas nécessairement les premiers mots qui vont être les plus parlants. Ça va être, par exemple, les combinaisons de mots vers deux ans, qui vont vraiment se mettre en place
ça va
plus
être flagrant.
Tard. Oui, chez ces enfants-là, ça peut aller à 2 ans et demi, 3 ans, là, avant de voir apparaître des combinaisons de mots réelles, des phrases. Puis dans le fond, autour de 3 ans, un enfant qui se développe bien va avoir des petits mots grammaticaux qu'il va rajouter. Mm. Puis dans le fond, chez ces jeunes-là, ça va être un réel défi de les mettre dans leurs phrases, ces mots grammaticaux.
De façon spontanée et naturelle.
Exactement.
Mais pour des parents jeunes, justement, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur dire, faites attention, il y a peut-être un petit problème. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, ou du moins, qu'est-ce qu'ils doivent observer particulièrement?
Moi, je dirais qu'autour de 2 ans, là, c'est de voir que l'enfant commence à mettre des mots ensemble. Auto-partie, papa-partie. Avant, c'est de voir si, par exemple, l'enfant a très, très peu de mots, s'il y en a autour de 18 mois, si vraiment on est encore au tout, tout premier mot, je pense qu'on peut vraiment s'inquiéter. On peut aussi, si on a vu apparaître des mots, mais qu'il y a eu des régressions, que dans le fond, l'enfant en utilisait, mais n'en utilise plus. Ça peut être aussi des facteurs qui vont nous préoccuper puis qui vont nous amener à venir consulter. Puis c'est sûr, autour de 3 ans, si l'enfant ne se fait pas comprendre, dans le fond, il transforme beaucoup de mots. Au niveau de la prononciation, c'est vraiment difficile. Il ne met pas en place des petits mots grammaticaux, les « je », les déterminants, les « le », « la », « un », « une »,« je vais y aller », »,« j'ai fait ça ». Si ces petits mots-là nous manquent, là, c'est vraiment des bons indices d'aller consulter. Puis c'est un bon moment aussi. On peut consulter à 12 mois si on est inquiet, mais 18 mois, souvent, les parents ont quand même des signes très, très concrets. Là, que le développement se met en place plus difficilement à 2 ans, encore plus, à 3 ans, encore plus.
Oui, là, ça devient autre chose.
Oui.
Et justement, quand un parent vient... Ce que j'ai constaté en lisant votre livre, c'est que donc c'est le parent qui, évidemment, va observer les premiers signes. Donc, le processus un peu d'accompagnement, déjà, le rôle du parent s'installe de façon naturelle. Comment ça fonctionne, en fait, une première rencontre avec un orthophoniste? Les parents arrivent avec... ils arrivent un peu d'un trou noir, j'ai envie de dire. Ils partent de rien. Quelle est votre façon d'interagir avec eux pour les premières fois?
Bien, dans le fond, on va d'abord, probablement au cours du premier entretien qu'on a avec eux, qui est téléphonique ou qui est sur place avec l'enfant, leur poser des questions sur justement ce qu'ils ont vu au cours du développement de leur enfant, à quel âge se sont installés les premiers mots, les premières phrases, est-ce qu'ils voient des manifestations dans la vie de tous les jours que l'enfant a des difficultés au niveau comportemental, qu'il a des difficultés de communication, à exprimer ses idées, qu'il a des difficultés sociales aussi. Puis tous ces éléments-là vont... on va les aborder avec les parents. Puis dans le fond, on va aller avec l'enfant par la suite faire des tâches, dans le fond, par le jeu. Souvent, c'est beaucoup
c'est
par le
ça.
Jeu. Puis dans le fond, toutes les recommandations aussi qu'on va faire aux parents par la suite pour l'aider à stimuler l'enfant puis aller chercher vraiment sa communication maximale, ça va être d'y aller par justement quelque chose qui est plaisant, qui va chercher l'intérêt de l'enfant. Donc, nous, notre défi, ça va être vraiment justement de pouvoir être
donner
assez intéressant
conseils,
pour que l'enfant... Il ait le goût de parler avec nous, montrer
ses intérêts.
Exactement, ses habiletés de communication. Puis, on a vraiment différents petits matériels qu'on peut utiliser. Donc, c'est à travers toutes ces informations-là. Le milieu de garde aussi, ou le professeur qui a fait des références. Qui en a parlé pour la première fois aux parents, parce que des fois, ça arrive que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va souligner la difficulté aux parents.
Ça peut être le monde extérieur aussi.
Oui.
Mais si vous le voulez bien, on peut continuer cette discussion qui est fascinante après la chanson.
J'aime les mots quand ils tanguent et dansent au rythme lent. s'abandonnent, quand ils sont tièdes, quand ils frissonnent. J'aime les mots qui nous laissent sans mots, j'aime l'aventure des jeux de mots, la peur des mots quand ils sont dits, car les mots dits sont parfois mal vus. J'aime les mots qu'on ose dire, ceux qu'on donne comme des cadeaux. Les mots simples qu'on pourrait retenir, de peur de gêner ou de peur d'en dire trop. J'aime les mots quand ils tanguent et dansent au rythme lent de mes romances. J'aime les mots qui foncent les moteurs, les mots fumants, les Morris, les mots qui tuent, sans mobile, ceux qui rient jaune, les mots viettes. Même les vieux mots un peu moribonds, mes meufs me donnent le frisson. J'aime beaucoup, j'adore et j'exige d'avoir le dernier mot.
Donc Isabelle Meyer, vous êtes avec nous pour votre livre « Au-delà des mots, le trouble du langage chez l'enfant ». Nous parlions donc de la dysarthrie ou de la dysphasie. Est-ce que justement, il y a énormément de familles bilingues au Québec. Est-ce que ça pose un problème pour ces enfants-là?
En fait, c'est sûr que ça pose un défi supplémentaire. Je pense qu'on peut s'attendre peut-être à ce que le développement du langage de l'enfant dans les deux langues soit un peu plus lent. Mais c'est un des mythes qu'on a voulu démystifier dans notre livre. Il y a plus d'avantages à parler toutes les langues, à exposer l'enfant à toutes les langues que le parent a et dans le fond maîtrise. Puis dans le fond, ce qu'on va dire aux parents, c'est que ce qui a gardé en tête, c'est d'aller avec ce qui leur est plus naturel. Donc il y a des parents qui vont parler à la fois des bouts de phrases en français, des bouts de phrases en anglais. Puis c'est naturel de le faire. Ça se peut que l'enfant, ça soit aussi la façon dont il s'approprie les mots.
Oui, c'est ça.
Mais les gains à long terme vont être supérieurs à ce qu'il pourrait avoir comme impact négatif. Donc c'est ça. Vraiment, là, c'est un message qui est très important qu'on passe de plus en plus fréquemment parce que, bon, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent deux langues, trois langues à la maison. On va favoriser que les parents exposent les enfants à toutes ces langues-là, si ça leur fait du sens pour eux. Là.
Ouais. Et est-ce que, donc, on parle de dysphasie, troubles du langage, mais évidemment, ces troubles-là, c'est au niveau de la communication, du parler, ils peuvent être associés aussi à d'autres troubles ou d'autres problèmes?
Oui. Dans le fond, on disait en début d'entrevue que c'était un trouble qui était neurologique. Donc, c'est dans la façon dont le système neurologique se développe. Que, dans le fond, les fragilités, si on veut, vont être créées au niveau cérébral. Puis, dans le fond, ben, ces fragilités-là peuvent être aussi à d'autres endroits, donc affecter d'autres aspects du développement des enfants. Et c'est ce qui nous a amené à privilégier, opter, en fait, pour le titre au-delà des mots. Oui. Parce que, dans le fond, oui, il y a le langage en premier qui amène les parents à consulter. Les préoccupations sont nombreuses à ce niveau-là. C'est un des premiers aspects qui est apparent. Mais après, ben, c'est sûr qu'au niveau moteur, des fois, on va déceler des petites choses qui font que l'enfant est un petit peu moins habile. Au niveau aussi de la modulation sensorielle qu'on appelle, donc comment on réagit avec nos sens à ce qui nous entoure. Mm-hmm. Chez ces jeunes-là, des fois, il va avoir des difficultés là, à venir justement comprendre. Oui, c'est ça. Comment...
Un geste, une gestuelle, une mimique.
Le bruit autour d'eux. Dans le fond, il y en a qui vont le percevoir plus faible, il y en a qui vont le percevoir plus fort, qui vont aller être envahis plus rapidement par ces stimuli-là, tout ça, alors que d'autres vont en vouloir toujours plus. Il va y avoir beaucoup de troubles d'attention, en fait. C'est une des problématiques qu'on va rencontrer le plus souvent aussi chez nos jeunes.
TDAH.
Des fois, c'est juste au niveau d'une difficulté. Donc, on voit qu'il y a une fragilité qui est là. Puis chez certains enfants, ben on va pousser ça plus loin, puis on va aller voir. Oui, effectivement, il peut avoir un TDAH qu'on va voir. Il peut avoir des dyspraxies aussi au niveau moteur qu'on va voir. Donc, des troubles développementaux de coordination qu'on va voir, des dyspraxies verbales qui vont être associées avec le trouble développemental de langage. Donc, oui, ça fait partie des possibilités.
Mm-hmm. Puis vous dites dans votre livre, je trouve ça très beau d'ailleurs, et je trouve ça important de le mentionner aujourd'hui puisqu'on est ensemble, mais vous dites vous-même, il est important de mentionner qu'un enfant dysphasique ou ayant un trouble du langage n'est pas un enfant malade.
Oui.
Il a le potentiel d'apprendre comme tous les autres enfants, simplement à sa façon et à son rythme. Il me semble que c'est rassurant de lire ça.
Bien, je pense que c'était un début d'avoir écrit ce livre-là, c'est qu'on voulait que les parents... ils se sentent accompagnés dans le deuil, on va le dire de cette façon-là, d'avoir un enfant qui est différent, puis dans leur insécurité par rapport à ce qu'ils vont pouvoir faire à l'avenir de cet enfant-là. Et effectivement, c'est les enfants qui ont des troubles développementaux de langage ont des impacts dans leur vie tous les jours. Là, au niveau des apprentissages scolaires, souvent, c'est des choses qu'on va voir qui vont rester. Mais il y a des choses à faire. Puis si l'enfant qui a un trouble de langage, en fait, c'est un enfant qui a des belles forces aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut les nourrir. Il faut aller les chercher. Puis dans les choses qu'on met en place, dans les adaptations que mes collègues et moi, on veut que les parents s'approprient. Oui, c'est ça. C'est, qu'ils stimulent leur enfant, mais qu'en même temps, qu'ils adaptent des choses qui sont alentour d'eux pour leur faciliter la vie. Donc, au niveau expressif, il y a des choses qu'on peut faire. Au niveau de la compréhension, le support visuel qu'on va leur donner va être super important. Puis des fois, ben c'est ça qui va faire en sorte que l'enfant va apprendre parce qu'il voit quelque chose. On arrive à mettre une image qui remplace ce signal auditif-là qui a la difficulté à traiter. Bien là, à ce moment-là, l'apprentissage va commencer à se créer. Puis là, ben ça va faire boule de neige. Puis à un moment donné, les parents vont voir que, de plus en plus, au niveau du comportement, il s'adapte. Au niveau de sa capacité à communiquer, il est de plus en plus capable, qui comprend de mieux en mieux son entourage et tout. Donc, ça va faire partie des choses qui sont possibles, mais il faut en prendre conscience.
Il faut être à l'écoute. C'est le rôle du parent. De toute façon, avec un enfant, peu importe le problème ou pas qu'il a, le parent est à l'écoute de son enfant. D'ailleurs, je trouve que c'est l'enfant donc qui vit avec ce trouble-là, mais les parents sont, comme on dit, indirectement concernés. J'ai l'impression que ça permet quelque part aussi aux parents lui-même de se dépasser. Quand vous donnez des trucs, comme vous dites, un enfant va lire un livre, il doit avoir beaucoup d'images, ou quand le parent doit y mettre plus de théâtre quand il lit, par exemple, une histoire à son enfant, ça pousse le parent aussi à aller chercher un côté créatif au fond de lui qu'il n'avait peut-être pas exploré avant.
Oui, ou à le mettre encore plus en évidence. Parce que je pense qu'un des messages qu'on a voulu lancer avec ce livre-là, c'est de voir aussi que les parents ont ce qu'il faut pour les stratégies, même qui sont utilisées en orthophonie, sont beaucoup, beaucoup basées sur qu'est-ce que les parents font de façon naturelle avec leur enfant. Mmh. Donc, le fait d'en prendre conscience, de voir que ben ça, peut-être en le faisant à plus grande dose, avec une plus grande intensité, toujours en voyant la réaction de l'enfant, c'est évidemment... c'est ça qui va faire la différence. T'sais, dans le fond, l'enfant qui a un trouble de langage va avoir besoin d'un environnement qui est soutenant, d'un environnement qui est stimulant, puis dans le fond, peut-être encore plus qu'un autre, mais le parent a vraiment ce potentiel-là à l'intérieur de lui, puis je pense qu'on a voulu aussi y aller de façon assez large pour que chaque parent réussisse à trouver à l'intérieur des trucs qu'on leur donne quelque chose qui lui parle davantage. Mm-hmm. Puis dans le fond, qui fait que, justement, il sente ce pouvoir-là. Puis
qu'il puisse aider, accompagner son enfant.
Puis, Tranquillement, pas vite, ce qu'on voit chez les parents, c'est qu'au début, c'est une grande inquiétude. C'est sûr qu'on vient d'apprendre le diagnostic et tout, mais plus on s'approprie ces moyens-là, puis plus l'enfant vieillit, puis qu'on voit que ben il y a des pas qui se créent, puis qui se font, puis il y a
ils comme confiance en eux.
Oui, oui, exactement. Tout le monde est vraiment gagnant, là, au bout du compte.
J'ai envie de souligner, en fait, est-ce que vous me permettez de lire la dernière phrase de votre livre ou vous voulez garder le punch pour vos lecteurs?
Non, c'est correct, je vous laisse avec votre belle voix.
Parce que je trouve ça très beau, en fait. Vous avez écrit « Il vous faudra parfois faire preuve de patience pour saisir entièrement le message de l'enfant dysphasique, mais vous y découvrirez des trésors jusqu'alors insoupçonnés. »
Exactement.
C'est magnifique. Je trouve que ça englobe très bien tout ce que vous venez de nous dire.
Oui. Donc, on découvre l'enfant dans son entièreté, puis je pense que les familles, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'ils vont se découvrir des forces, une créativité peut-être qu'il n'y avait pas, un sens de l'adaptation.
Magnifique. Merci beaucoup, Isabelle.
Ben, c'est un plaisir.
Dors mon poussin, dors mon bébé, ma petite fleur, ma petite fée. Déjà une dent, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'il fout le marchand de sable? Allez demain, faut être en forme, maman travaille, elle se défonce. Tu sais la nuit, y'en a qui dorment, fais comme papa, regarde, il ronfle. Dodo, l'enfant d'eau, on joue à dormir tout de suite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Maman est là, faut pas pleurer. Faut être un bébé bien élevé qui dort quand maman sommeille et qui me casse pas les oreilles. Tu sais, la nuit, c'est pas prudent. Faut faire dodo, faut faire risette. C'est ce que font tous les enfants qui veulent pas passer par la fenêtre. Dodo, l'enfant d'eau, sinon je te déshérite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Allez ma puce, allez mon ange, c'est la troisième fois que je te change. Pitié pour une mère débutante, mais tu tiens de qui pour être si chiante? Non, non, maman, s'énerve pas, mais tu me prends le sein ou bien la tête? Moi, à ton âge, j'étais sympa, tu sais ce qu'elle dit, la mère parfaite. Dodo, l'enfant d'eau, espèce d'antiféministe. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit bientôt, alors maintenant, il faut pas faire mentir maman. Pas du tout pédagogique. Tu dors ou bien j'appelle les flics. C'est misérable, je sais plus quoi faire. Je vais tout de même pas te mettre en prison. Ou pire encore, avec ton père sur le canapé du salon. Dodo, l'enfant d'eau, relation mère-fille père-fille. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit dodo, l'enfant d'eau, crise de nerfs, maman limite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien. Mon ange, c'est mon portrait.
Catherine Bourderon, bonjour.
Bonjour.
Nous voilà donc en présence de Catherine Bourderon, recherchiste et chroniqueuse, et aujourd'hui elle va nous parler du psy-guide des parents épuisés.
En effet, comment prévenir ou surmonter le burn-out parental? Alors c'est un livre qui a été écrit par Suzanne Vallière, une psychologue. Être parent peut mener à l'épuisement. Alors c'est ce que nous dit cette psychologue, et ça s'appelle le burn-out parental. Environ un quart des parents québécois jugent que leur rôle de père ou de mère est une source de stress. La situation se dégrade à un point où on souffre d'épuisement parental. Ça, cette problématique touche entre 5 à 7 % des parents, ce qui est pas mal. Ça se rapproche beaucoup de l'épuisement professionnel, sauf que les symptômes sont liés à la famille. Ce sont des gens qui adorent leur travail, fonctionnent dans leur travail, mais quand ils arrivent à la maison, ça ne fonctionne plus, rien ne va plus. Alors, tout demande de un effort comme jouer avec les enfants, donner le bain, le dodo, lire une histoire, tout est une source de stress et de lourdeur. Suzanne Vallière, cette psychologue, donc, précise d'emblée que le burn-out parental, je pratique mon anglais, le burn-out parental n'est pas un diagnostic reconnu par le DSM-5, la Bible de la santé mentale. Mais les symptômes s'apparentent beaucoup à la dépression. C'est carrément avoir... C'est comme si les parents avaient une perte de plaisir à être parents. Alors, comment on en arrive là? La psychologue évoque la conciliation travail-famille, l'éclatement du noyau familial. Elle nous dit on peut changer d'emploi, mais pas de famille. Alors, elle plaide évidemment pour la prévention et trouver des solutions. Ce que je retiens, c'est que, il y a des signes avant-coureurs, la fatigue, hausser le ton, être irritable. Vous me direz qu'il y a des gens qui ont ce signe avant-coureur naturel, ils ne souffrent pas de burn-out parental, mais c'est une petite observation personnelle. Ne plus avoir envie de jouer avec les enfants.
Je te reconnais là.
Ne plus avoir envie de jouer avec les parents. les enfants. Non, c'est les enfants.
Oh, le lapsus.
En fait, est-ce qu'on pourrait parler du burn-out des enfants qui ne veulent plus de leurs parents? Mais la psychologue nous propose des pistes de solutions. Bon, reconnaître d'abord qu'on est à bout.
Ouais.
Oublier la perfection, revoir les priorités. Bon, moi, il y a une question que je me pose parce que j'ai comme lu ce livre. Docteur Baruel, si on dit à notre patron, je suis en burn-out parental, est-ce qu'il va nous rire en pleine face, mais on a besoin de soins? Ces gens-là ont besoin de soutien, d'écoute et de soins. Ça se dit pas. Ça se dit pas, je suis en burn-out parental.
Non, parce que
c'est jugé.
Oui, parce que ce sont deux mondes différents. Donc, je pense que le burn-out au travail, c'est une chose, et le burn-out familial, c'est justement, ou parental, c'est justement une autre, et ça n'a pas de rapport avec le patron. Le patron va en effet
rire
en
pleine
souffre, face.
Ces gens-là souffrent.
Ils souffrent horriblement.
C'est 5 à 7% de la population.
Tout à fait.
Alors, comment, est-ce que ce sont des grands oubliés du système de santé?
Ce ne sont pas des grands oubliés du système de santé. Enfin, ce ne sont pas des grands oubliés. Ça, il y a quand même des réseaux qui permettent de faire quelque chose pour eux. C'est quand même médical. Si vraiment il y a un burn-out et que les enfants en souffrent à ce moment-là, on peut, tout de même, il y a des consultations qui peuvent se faire. Par contre, ça me fait penser à quelque chose. C'est que j'aimerais bien que, justement, avant que les enfants naissent ou avant que les parents décident d'avoir des enfants, j'ai toujours pensé qu'il fallait quand même qu'il y ait quelques épisodes ou quelques consultations de psychologie ou de psychiatrie, simplement pour leur expliquer que c'était pas vraiment un problème.
Tout à fait.
Oui, et c'est en fait, et moi aussi, ce que je pourrais donner comme conseil aux parents, c'est de lire le psy-guide des parents épuisés avant de mettre un enfant au monde. Et c'est aux éditions de l'Homme par la psychologue Suzanne Vallière.
Merci Catherine.
Merci beaucoup. Restez avec nous, on se retrouve après la pause. Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. François Baruel et Camille Chaille au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. Mais juste avant d'aller à la rencontre de notre deuxième invité, voici le coup de gueule de Patrice Cocro, notre collaborateur qui nous parle de la pollution sonore.
La pollution sonore. Il y a 2 ans, je m'en vais au Carrefour Laval magasiner. Depuis que je vis à la campagne, dans les Laurentides, c'est un centre commercial où je vais de temps à autre, plutôt rarement, simplement parce que c'est sur ma route et que le stationnement est facile, aussi bête que ça. Ce jour-là, un dimanche matin à 10 heures, j'entre dans une boutique d'une chaîne de vêtements bien connue en quête de quelques chemises et d'un pantalon. La première chose qui me frappe dès que je mets le pied dans ce magasin ce dimanche matin à 10 heures, la musique. Forte, anglophone. Je viens de rentrer non pas dans une boutique de vêtements, mais dans un bar à 2 heures du matin. C'est totalement insupportable. C'est ridicule et ça ne tient pas la route. Il y a peu de monde dans la boutique et certainement pas une majorité de milléniaux. Nous sommes une dizaine, dont 50% ont au moins 40, 50 ou 60 ans. Avant de sortir presque immédiatement, car il est hors de question que j'achète quoi que ce soit dans cet environnement abrutissant, je pose la question à une jeune vendeuse. Comment vous faites pour travailler dans une telle ambiance? Elle me répond que les employés n'ont pas le choix et que de toute façon, ils prêtent plus attention à la musique. Je réponds que c'est une grave erreur. L'idée même de prendre pour acquis le consommateur et considérer que ce dernier souhaite magasiner en étant bombardé de musique tonitruante si tôt un dimanche matin est un calcul et une stratégie ridicule. Ce commerce considère que sa clientèle souhaite ce type de stimulation, de divertissement, d'ambiance. Faux, totalement faux. Je réponds à la vendeuse que ce concept est nul et que le magasin vient de perdre un client à jamais. Pas grave, me direz-vous. Au contraire, parce que le profil démographique change et que la population vieillit dans une société comme le Québec, c'est faire preuve d'une vision d'affaires totalement déconnectée. Je suis donc sorti de ce magasin sans avoir acheté quoi que ce soit. Ce type de situation est omniprésent et touche beaucoup, beaucoup de gens aussi hypersensibles que moi au son et au bruit, le plus souvent imposés plutôt que suggérés. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi, de manière systématique, dans les restos, dans les magasins, les taxis, dans de multiples lieux publics, on prend pour acquis que tout le monde aime être bombardé de musique? Avez-vous fait un sondage, vous, commerçants, qui vous affirme que c'est ce que les gens aiment et recherchent? Interrogez-vous sur le sens des relations humaines et des modes transactionnels. Vous prenez pour acquis que tout le monde pense et interagit sur une base standard normalisée? Vous êtes totalement dans le champ. Il existe énormément de gens qui n'ont pas besoin d'être surstimulés pour avoir le sentiment et l'impression profonde d'exister. Pourquoi tout ce bruit, cette pollution sonore omniprésente? C'est du délire. Je suis personnellement un être hypersensible, un auditif. À mes yeux, beau paradoxe, tout est sonore. Tout vibre, tout a une résonance, un écho, une couleur sonore. Je sais, pour en avoir parlé à mon entourage, des proches, mais également des collègues de travail, que je suis loin d'être le seul. Beaucoup de gens, en fait, ne s'identifient absolument pas à cette proposition récurrente qui consiste à investir l'espace physique de musique, de son, d'ambiance, même si le client n'a rien demandé. On n'interroge pas le public. On prend pour acquis que c'est la norme, la recette. Et c'est ça qui me sidère. On ne propose pas, on impose. On impose du bruit, on impose la musique. On croit dur comme fer que c'est ça que les gens demandent, que c'est ça qui fait vendre. Pourquoi on en est rendu à devoir exprimer ce qui, à mes yeux et à mes oreilles, va de soi? La société n'est pas une masse informe et normalisée. Combien de fois, depuis 10 ans, j'ai demandé de changer la musique dans un restaurant à défaut de pouvoir l'arrêter? À de nombreuses reprises, je dois le dire, on m'a accommodé. 90% des restaurateurs ont entendu mon message. Merci. Merci. Mais les magasins de meubles, de vêtements et les pharmacies n'en sont pas rendus là. La musique, le son, le bruit à tout prix. Se poser la question de la nécessité d'opérer systématiquement comme ça dans le but d'une remise en question, ce serait déjà un énorme premier pas. Je le souhaite de tout mon cœur.
Bonjour Colombe Saint-Louis.
Bonjour.
Bon, Colombe Saint-Louis, vous avez un trouble bipolaire depuis pas mal de temps, mais maintenant il est traité et vous en avez pas mal souffert. Mais vous avez eu le temps de vivre beaucoup d'épisodes de manie et de dépression grave. Mmh. Vous appelez ces épisodes vos psychoses. Vous racontez ces crises que vous avez vécues comme un enfer. Mais vous en êtes sorti et je trouve ça très émouvant. Car vous êtes plus construite que n'importe qui. Comme si le travail de reconstruction avait largement dépassé son but. Vous racontez ça comme vous auriez écrit un roman, et c'est passionnant à cause de votre histoire, mais aussi par la manière de raconter tout ça. Et vos phrases sont tellement profondes et poétiques parfois qu'on ne peut que s'arrêter de lire pour les savourer. Je vais d'ailleurs vous poser quelques questions à partir de pas mal de citations de votre livre. Parce que c'est vraiment magnifique. Donc votre livre s'appelle « Entre mes psychoses », édité chez Carte Blanche. Est-ce que d'abord vous pourriez définir en quelques mots la psychose dont vous souffriez?
Ben, la psychose, c'est la perte de contact avec la réalité.
Ouais.
Et puis chaque psychose a comme un scénario. Mmh. Comme ma première psychose, j'avais le scénario que le trafic d'organes voulait me tuer, moi et mon fils. C'est souvent un scénario négatif, puis on a souvent peur de se faire tuer. Après ça, il y a des éléments déclencheurs. Moi, ma première psychose, par exemple, il y a eu une perte d'emploi. ma mère est tombée malade, donc j'étais stressée. Et j'ai eu une grande peine d'amour aussi. Tout ça en même temps a fait beaucoup de stress. Et puis là, j'ai commencé à avoir des signes précurseurs de la psychose, c'est-à-dire de l'insomnie, des peurs inhabituelles, des pensées confuses. Et puis, tranquillement, la psychose s'est installée, donc une perte de contact avec la réalité.
Et vous en êtes sorti, et maintenant, on va continuer, on va en reparler, mais il y a aussi une chose que je voudrais savoir, c'est que vous êtes père aidante, P-A-I-R-E, aidante. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Père aidant, c'est nouveau, ça fait 11 ans
oui.
que je suis père aidante pour l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
Oui.
Et puis, ce que ça veut dire, c'est que je suis intervenante en santé mentale. Je fais de la relation d'aide. J'aide mes semblables. Père veut dire semblable. Donc, également, le fait que j'ai vécu, moi aussi, la maladie mentale et que je me suis rétablie, c'est ça, dans le fond, un père aidant ou une père aidante.
Et vous parlez du trouble mental comme d'un enfer, comme je disais tout à l'heure, un enfer intérieur. Et je vous cite... C'est l'impression d'avoir perdu son âme dans un océan d'émotions. Pour moi, vivre une psychose, c'est survivre entre deux réalités qui font peur. Est-ce que c'est un cauchemar sans réveil? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça?
On est seul au monde dans la psychose parce qu'on a une autre réalité à laquelle on croit plus que la réalité. Donc, on se retrouve tout seul dans notre nouvelle réalité. Qui est dramatique, qui est épeurante, on a la peur au ventre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est alors pire qu'un cauchemar?
Oui, parce qu'on est éveillé.
Voilà. Ça porte à réflexion. Hein.
Votre livre commence par la souffrance. Hein. C'est vraiment le début de votre histoire. Hein. C'est la solitude, donc, seul au monde. Déjà, vous en avez parlé, de la solitude, mais déjà, vous étiez... Même quand vous n'aviez pas votre psychose, vous avez parlé de vous êtes seul au monde et vulnérable. Hein? Comment est-ce que vous pourriez expliquer cette solitude? Parce que on a l'impression que votre mère c'était un amour de femme.
Oui.
Un cœur à deux pattes.
Oui, tout à fait.
Et comment se fait-il que vous ayez manqué d'amour? On dirait que vous êtes manqué d'amour ou de sûreté de vous-même. Qu'est-ce qui a manqué pour que vous soyez seul et vulnérable?
C'est que j'ai vécu des traumatismes dans l'enfance.
Ouais.
Et suite à ces traumatismes, je me suis retrouvée tout seule au monde.
Dans votre vécu?
Dans mon vécu, oui.
Oui, c'est à cause de votre oncle.
Oui.
Dans le livre, vous le racontez d'ailleurs. En fait.
Mais c'est le mari d'une cousine à ma mère.
C'est un oncle par alliance.
Oui, ouais. C'est ça.
Et alors, donc, à 6 ans, c'est lui qui vous a agressé sexuellement. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez été... Que vous avez eu la sensation d'être seul?
Oui, parce que j'ai gardé le silence. Et dans mon livre, je brise le silence. Oui, et ça fait beaucoup de bien. C'est très thérapeutique.
C'est ce qu'on ressent, en effet, dans le livre. Vous le dites d'ailleurs, que c'est très thérapeutique de raconter ce qui vous est arrivé et de pouvoir l'exprimer.
C'est que je veux expliquer que derrière la maladie mentale, il y a souvent des traumatismes. Il y a souvent des blessures de l'enfance qu'il faut exprimer pour s'en sortir.
Oui, les éléments déclencheurs. Il ne faut pas les laisser, eux non plus, enfouis sous le sable.
Oui.
Comment est-ce que vous avez... Donc, vous avez vécu cette première expérience-là. Est-ce que vous avez pensé au suicide? C'est un petit peu morbide, mais est-ce que vous avez pensé au suicide ou est-ce que l'idée était présente ou pas?
Dans ma vie, à 3 reprises, j'ai pensé au suicide. J'ai même fait 3 tentatives.
Pendant des crises ou en dehors?
C'était des crises de dépression.
C'est ça, oui.
Et puis, je parle beaucoup de suicide dans mon livre. D'ailleurs, une personne qui a lu mon livre m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'était une personne suicidaire, puis elle m'a dit que ça lui avait sauvé la vie de lire mon livre.
Wow!
Ça m'a vraiment fait chaud au cœur.
Oui, c'est pas rien du tout. Non, c'est énorme ce que vous avez fait, je pense, de vous ouvrir, déjà pour vous-même, mais aux yeux et aux yeux de tous vos lecteurs, ça n'a pas de prix, en fait. Hein.
Parce que mon but, c'était d'écrire un livre pour aider les gens qui souffrent encore de maladies mentales.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ait écouté ensemble un vox pop d'Annick Fillion sur la psychose et on pourra continuer d'en parler par la suite.
Parfait.
Merci.
Clarisse,
Carmen.
Je m'appelle Jeanne,
Geneviève,
Emile,
Adèle,
Maëva,
Marie,
Alexandra,
Félix,
Emmanuel,
je m'appelle Dan,
Marianne,
Patrick,
Coralie,
Vicente,
Eminegul,
Anna.
La première fois que je me suis rendu compte que j'avais un trouble psychotique, j'avais une voix dans ma tête, comme une pensée qui n'était pas la mienne, qui me disait constamment que je devais me suicider, qui me faisait penser aux pires choses au monde. Vraiment comme s'il y avait un démon dans ma tête qui savait exactement quoi dire pour me faire du mal puis qui m'attaquait avec ça.
Oui, en période de psychose, c'est des voix, c'est de la paranoïa, c'est l'impression que tout le monde te regarde.
Mais ça s'est manifesté par des délires... C'est comme si je vivais dans un film, puis là, la télé me parlait. C'est comme si j'étais investi là, d'une mission divine. J'étais le héros d'un film fantastique qui se passait à Trois-Rivières avec tous les éléments de ma vie qui prenaient un sens.
En fait, je suis parti en voyage en Californie tout seul parce que j'entendais une voix dans ma tête qui me disait que je devais aller là-bas pour rencontrer ma jumelle cosmique, mon âme sœur. J'avais comme projet de refaire ma vie, de devenir gourou en Californie, tu sais.
J'ai l'impression qu'à force d'entendre des voix dans ma tête, j'ai compris que c'était uniquement dans ma tête. Ça n'a jamais sonné comme si une personne parlait à côté de moi. Ce qui fait en sorte que ça ne m'appartient pas, c'est que c'est des pensées avec lesquelles je suis tellement pas d'accord.
Qu'est-ce que ce démon-là te dit? Ça serait quoi?
Il me dit vraiment toutes les façons dont je devrais mourir. Personnellement, je suis pas suicidaire. J'ai vraiment pas le goût de mourir. C'est juste comme si quelqu'un me répétait chaque jour que je devais me tuer.
C'est complexe d'expliquer parce que exemple, ma dernière psychose, j'entendais des voix, mais c'était-tu dans ma tête ou c'était la police à l'extérieur qui cognait dans la porte pour essayer de rentrer chez nous? Donc, est-ce qu'il y a vraiment des voix dans ma tête? J'ai l'impression que non, c'est plus des idées que je me fais, c'est plus des histoires que je me conte puis que je me crois. Là.
Je sentais que c'était pas une voix qui venait de ma propre conscience. C'est-à-dire que ça appartenait, une voix qui appartenait à quelqu'un d'autre, une autre entité, disons. Puis la voix, elle avait un nom, puis elle s'appelait Octao, puis c'était comme la voix d'un vieil arbre qui aurait 2000 ans, quelque chose comme ça, là. Aussi, c'est une voix bien intentionnée, là. C'était pas une voix épeurante ou qui me donnait des ordres, là. C'était quelqu'un qui me conseillait, là, sur mon chemin spirituel, là, que je croyais à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous pensez qui a déclenché ça, là? Est-ce que vous avez mis le doigt sur quelque chose ou...
Bien, c'est sûr qu'il y avait de la prise de drogue. C'était les années 90, je faisais des raves. J'étais en amour avec une fille qui avait décidé de ne plus être en amour avec moi. Mais c'est tous ces éléments-là. Puis en plus, il y avait de la génétique dans ma famille.
C'est vraiment... la maladie mentale, c'est complexe. Puis pourquoi ça se produit, c'est pas clair, là. J'ai une génétique aussi qui peut porter à ça, dans le sens que ma mère a jamais pris de drogue et elle a fait une petite chose dans sa vie.
Ce qui a déclenché ma maladie mentale, c'est vraiment une relation malsaine, qui est en fait ma première relation avec un gars que j'ai vécu. Mais il faut dire que j'étais quand même fragile parce qu'il y a la maladie mentale dans ma famille, puis j'ai également un trouble de personnalité limite et de l'anxiété.
En fait, on aimerait ça qu'il y ait un élément déclencheur, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas.
Est-ce que vous aviez des craintes d'en parler à votre entourage?
Mon entourage le sait. Il sait que c'est un problème de société aussi, la santé mentale, donc mieux vaut en parler que de se cacher. Mm-hmm.
Mais je suis pas sûr que c'est payant de le dire. Je suis pas sûr que c'est payant de s'exposer.
Là, mes amis me disent « Arrête de dire au premier rendez-vous que tu es folle parce que ça les fait tout fuir. » Le plus grand avantage d'être ouvert avec sa maladie mentale, c'est que les gens me voient comme une personne heureuse en ce moment et ils voient que la maladie mentale, c'est pas juste le désespoir.
Qu'est-ce que vous voulez vous souhaiter, vous, pour le futur?
Peut-être de garder une certaine humilité à travers tout ça. La seule chose qui permet d'avoir les deux pieds sur terre, c'est ça. Puis de ne pas partir dans des délires, en fait. Fait que l'équilibre, l'humilité, c'est ça que je me souhaite, en fait.
Bien, moi, honnêtement, je me souhaite plus de paix. De me détacher du regard des autres, là. D'être capable d'être moi-même, d'être authentique. ça, c'est là que je suis rendu, là.
Mais tout ce que je veux en ce moment, c'est que je sois traitée comme une personne, comme une autre, que je ne sois pas vue comme une personne spéciale parce que j'ai une maladie mentale, qu'on ne fasse pas plus attention à moi qu'aux autres tant que je suis en santé. J'ai juste une vie comme une personne normale parce que je le suis.
Alors, Colombe, nous venons d'entendre ce vox pop qui est magnifique de Annick. Je voudrais aussi signaler que... il y a Annick a interrogé Mathieu Arsenault, je voulais le citer. Il est réalisateur du film Tenir tête, guide de survie en phase maniaque et dépressive. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il a fait, qu'il y a eu déjà des films à ce sujet-là, et qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Hein, donc je répète, c'est Tenir tête, guide de survie en phase maniaque et dépressive. Donc qu'est-ce que ça vous évoque d'avoir entendu tous ces gens qui ont justement une psychose manico-dépressive, ou du moins ce qu'on appelle maintenant une bipolarité?
Je trouve ça bien qu'on en parle.
Oui. Ah oui.
Puis pour diminuer la stigmatisation. Parce que vous savez, avoir un problème de santé mentale, vivre avec une maladie mentale, c'est difficile. Mais la stigmatisation, c'est encore plus difficile. C'est plus souffrant que les symptômes de la maladie.
Vous parlez même, bien sûr, vous parlez de stigmatisation, mais vous parlez aussi d'auto-stigmatisation. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ça fait encore plus mal. Ouais. Parce que c'est de croire soi-même aux préjugés.
C'est-à-dire de rentrer dans le jeu des autres.
Oui, tout à fait. Comme moi, par exemple, un moment donné, je travaillais comme directrice générale. Et puis, on m'a fait de la stigmatisation quand j'ai expliqué mon problème de santé mentale.
Ouais.
Et puis, par la suite, j'ai fait de l'auto-stigmatisation et j'ai démissionné. Ça va jusque-là. Tu sais, ça fait faire des choix qu'on regrette par la suite.
Vous avez abandonné le terrain, en fait.
Oui, c'est ça. Ça fait des dommages incroyables.
Oui. C'est parce qu'on peut dire qu'en fait, le problème, hein, si on peut l'appeler comme ça, il reste encore là. Quand on parle des blessures qui n'ont pas été nommées, on reste encore à un point neutre, mais qui peut vite nous faire basculer plus qu'autre chose.
Oui. Mais je pense que j'ai bien fait d'un autre côté de partir parce que c'était trop souffrant de rester avec la stigmatisation de mes employés.
Mm-hmm. Oui, ça j'imagine. Enfin, j'en suis même persuadé parce qu'on ne peut pas vivre avec une stigmatisation permanente. Mm. Est-ce qu'on peut parler de votre rétablissement?
Oui, tout à fait. Il y a un processus de rétablissement qui existe en 5 étapes. Dans le fond, au début, on a comme l'impact du trouble mental, le choc et le déni. On a besoin beaucoup d'être écouté quand on est à cette étape-là, parce que c'est très difficile. La deuxième étape, c'est la vie limitée, renoncement et désespoir. Il faut être revalorisé parce qu'on baisse les bras devant la maladie puis on oublie qu'on a des forces à cette étape-là. Les trois autres étapes sont plus positives, comme le changement est possible, espoir et remise en question. Et puis l'engagement à changer, volonté d'agir et courage. Et les actions pour changer, responsabilisation et pouvoir d'agir. Dans le fond, au début du processus, c'est comme si la maladie prend le pouvoir sur notre vie. Puis quand on réussit à faire le processus, on reprend le pouvoir sur notre vie.
Et c'est à ce moment-là, quand vous avez repris le pouvoir sur votre vie, que vous vous retrouvez vous-même, comme ce que disait cet homme qu'on entendait dans le Vox Pop? C'est quand on reprend le pouvoir sur sa vie qu'on se retrouve
soi-même, le moi authentique, oui.
D'accord. Mais combien de temps pour le faire?
Ça prend des années. En tout cas, pour moi, ça a été long, un processus très long. Il y a eu la médication, il y a eu les hospitalisations, même la contention, même l'isolement. Ça n'a pas été facile.
Ouais.
Puis par la suite... moi, j'ai réalisé que la médication venait supporter le travail sur soi. Mais ce n'était pas tout que de prendre des pilules.
Non, c'est deux choses différentes, mais complémentaires.
Tout à fait. Alors, moi, j'ai été chercher une thérapie avec une psychologue pendant des années. Puis ça m'a vraiment sauvé la vie.
Est-ce que vous pouvez dire que vous en êtes maintenant guérie? Est-ce qu'on peut ressentir ça à l'intérieur de soi?
Je sens la guérison à l'intérieur de moi, mais je ne peux pas dire que je suis guérie parce que je vais prendre des médicaments probablement pour le reste de mes jours. Mais je peux dire que je suis en rétablissement.
C'est ça. Mais qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Je suis médecin, je ne peux pas faire autrement que de poser la question. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Est-ce que vous prenez du lithium?
Non, j'en ai pris pendant une période de temps. On a changé les médicaments parce que j'avais trop d'effets secondaires. Maintenant, je prends de la Abilify.
D'accord.
Qui est un antipsychotique.
D'accord.
Colombe, c'est déjà presque la fin de l'entrevue, mais il y a une question, je pense, qui est très importante. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui nous entendent, qui sentent qu'ils ont les symptômes ou qui vivent des psychoses? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire simplement?
Moi, je voudrais leur dire qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Puis si moi, je m'en suis sortie et j'ai fait plusieurs psychoses, bien, je pense que tout le monde peut s'en sortir. Il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas baisser les bras. Puis il faut oser en parler malgré les tabous.
Mm-hmm. Bien, Colombe Saint-Louis, je vous remercie d'être venu avec nous aujourd'hui en studio. C'était votre première fois. Vous êtes venu pour nous parler avec votre sensibilité, vulnérabilité et votre force intérieure aussi.
Merci Colombe. Et je voudrais juste rappeler en fait que votre livre s'appelle « Entre mes psychoses » et qu'il a été édité par Carte Blanche. Et vous pouvez le trouver partout.
Merci beaucoup.
Merci. Merci. Camille, alors c'est le moment qu'on attend tous.
Le billet.
Le moment de ton billet dont le titre est « Assumer sa différence ».
Exactement. Je vous parle de ça parce que je pense que c'est propice au sujet dont on vient de parler aujourd'hui ensemble. Je m'inspire d'une expression que j'ai vue quand je suis allée au Cambodge, en fait, sur plein de chandails qui vendent. Souvent, c'est écrit, c'est un anglicisme, c'est écrit « same, same, but different ». Et c'est quelque chose qui m'a fait sourire quand j'ai vu ça, parce que je me dis, oui, on est tous pareils, mais uniques à la fois. On a tous notre histoire, et je me permets de parler au sens large en disant que, oui, on est différents, mais on est liés. On est liés par notre besoin d'amour, par notre besoin d'être heureux, notre besoin tout simplement de vivre. Mais en même temps, on est proches et on a besoin des autres. Et par contre, je suis d'accord pour dire que la vie, pour tout le monde, se manifeste d'une façon différente pour chacun. Alors la question que je vous pose, en fait, c'est comment vivre avec notre différence et l'assumer? Parce que vivre avec une différence, on doit non seulement, pour le meilleur des cas, l'accepter et l'assumer, mais ça nous fait vivre beaucoup de situations et d'émotions qui peuvent parfois être intenses. Moi, je vous partage, par exemple, quand j'étais jeune à l'école primaire, les enfants me pointaient souvent du doigt parce qu'il me manquait un bras, une jambe, parce que je portais une prothèse de jambe, parce que ma prothèse de bras, il y avait un crochet en métal, donc c'était très voyant. Je me démarquais des autres malgré moi et je ne pouvais pas m'en cacher. Mais est-ce que mon intention était de me cacher? Non. Moi, j'étais une jeune fille qui voulait m'amuser, avoir des amis comme tout le monde. Donc c'est là où ce que je veux vous amener dans la réflexion, c'est on a tous le choix de choisir de se cacher ou de sortir de notre coquille avec notre différence. Tout est une question d'attitude. Moi, comme je vous dis, quand j'étais jeune, oui, on a tous des obstacles. Donc moi, par exemple, c'était de, quand je devais m'habiller, de boutonner mes chemises à une main, de faire une boucle à une main quand je devais mettre mes chaussures, de simplement porter mon sac à dos qui était parfois trop lourd, et de continuer à avoir du plaisir dans la cour de récréation malgré les douleurs que je pouvais avoir. Donc je vous nomme ça pourquoi? Pour dire que tous, on a nos obstacles et nos défis, mais tout est une question d'attitude. Je choisissais quand même de regarder les gens, de leur sourire, de répondre à leurs questions. Et au fil du temps, j'ai compris que mon handicap était ma force.
Mmh.
Et oui, donc il y a un cheminement. Et c'est parce que je l'ai accepté que je suis capable de m'ouvrir et de vouloir être vue. Et je dis souvent, mon corps est handicapé, mais mon cœur ne l'est pas.
Mmh.
Donc je vous laisse réfléchir là-dessus.
C'est très beau.
Oui.
Très beau. Puis je crois qu'on pourrait aussi dire que si on accepte les différences des autres... On s'en nourrit.
Ah, oh, c'est sûr et certain. Mmh. C'est toute une question d'échange.
Ouais.
Merci François. Et vous, chers auditeurs.
Camille.
Et c'est ce qui termine notre émission aujourd'hui. Alors, un énorme merci aux chroniqueurs ainsi qu'à toute l'équipe. Isabelle Meilleur, Colombe Saint-Louis, Annick Filion, notre vadrouilleuse, Patrick Cochreau, notre collaborateur, Catherine Bourderon, chroniqueuse et recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté, qui s'occupe de la mise en onde. Et sans oublier, mon cher François, merci d'avoir été avec moi.
Merci, Camille.
Et vous aussi, qui nous écoutez, merci d'avoir été des nôtres. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour
C'est bon pour la santé.